France Culture.
Bonjour le Book Club, je viens enfin de lire le tome 1 de Guéno Pieds Nus après avoir attendu des années une nouvelle édition et je dois dire que ça a été une sacrée claque. Ce récit quasi autobiographique, j'y vois un formidable manifeste pour la paix qui décrit de manière aussi juste mais que brutale l'inhumanité de la guerre et les ravages parfois méconnus de la bombe atomique avec notamment la ségrégation des populations touchées par les radiations.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Keiji Nakazawa, né en 1939 à Hiroshima au Japon, au tout début de la Seconde Guerre mondiale, donc, il meurt dans la même ville, 73 ans plus tard, après une carrière d'auteur de bande dessinée. La moitié de sa famille disparaît, elle, dans les incendies et les effondrements qui suivirent les bombardements atomiques du 6 août 1945. Il en est rescapé, avec sa mère et la petite fille qu'elle portait alors. La radiation intime, au sens propre comme au sens figuré, de cet événement mondial, dans l'écriture, est à l'origine de ses premier livre. Après plusieurs publications, il se lance en 1972 et jusqu'en 1985 dans l'écriture et le dessin d'une grande fresque qu'il appelle Gen aux pieds nus. 10 tomes qui retracent la vie d'un jeune garçon à Hiroshima de 1945 à 1953. Première œuvre japonaise à aborder cette tragédie et à le faire depuis une matière autobiographique, l'auteur, critique et essayiste Benoît Peters, l'autrice et journaliste Pauline Croquet sont nos invités pour en parler. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Pauline Croquet.
Bonjour.
Vous êtes autrice et essayiste, vous êtes jury du Festival d'Angoulême, on parlait avant de prendre le direct, vous êtes aussi journaliste au Monde. Bienvenue dans le Book Club.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup d'être avec nous pour évoquer Gen aux pieds nus. Bonjour Benoît Peters.
Bonjour.
Vous êtes aussi auteur, vous êtes aussi critique, essayiste. Vous avez par exemple tenu la chaire du Collège de France consacrée à la bande dessinée. Vous vous exprimez souvent et généreusement sur cet art. Merci beaucoup de le faire encore à ce micro pour le Book Club. Bienvenue
à vous.
Nous allons parler donc de Keiji Nakazawa, mais précisément de cette réédition au tripode de Gen aux pieds nus, les deux tomes. C'est là-dessus qu'on va se concentrer aujourd'hui, mais pour évoquer ce grand œuvre de 10 tomes, on va commencer par donner quelques éléments biographiques, puisque j'ai dit dès le départ qu'une des spécificités de cette œuvre, c'est de bien lier la biographie de cet auteur avec son œuvre artistique. Qu'est-ce qu'on peut dire, Benoît Peters, peut-être pour commencer, quelques éléments biographiques de cet auteur?
On peut dire que l'autobiographie en bande dessinée est très à la mode aujourd'hui et qu'elle ne l'était pas du tout au moment où Keiji Nakazawa a commencé ce récit. Tout d'un coup, dans une revue en 72, on ouvre la possibilité au Japon à des auteurs de raconter une histoire personnelle. Mmh. Mais c'est quelque chose de neuf. Et il faut bien se rendre compte que cette idée de traiter... Oui, c'est pas facile. Parce que l'autobiographie à l'époque n'est pas du tout dans les habitudes, le manga est supposé être un divertissement, mais aussi parce que raconter la bombe, raconter l'après-bombe, c'est se heurter à un tabou. Pendant longtemps, on pense que les gens qui ont connu Hiroshima ou Nagasaki sont en quelque sorte contagieux, peut-être physiquement, mais en tout cas moralement. Et donc, c'est une entreprise qui va être difficile et douloureuse et qui va changer plusieurs fois d'éditeur parce que, simplement, peut-être qu'au départ, cette histoire, on n'a pas envie de l'entendre. Donc, et pourtant, c'est celle qui lui importe. Alors, c'était extraordinaire parce qu'il avait 6 ans et demi. Mais je pense qu'un enfant... Dans cette situation de la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a une maturité qui n'a rien à voir avec celle d'un enfant de 6 ans dans des conditions normales. On a vraiment tout le temps le sentiment d'une lucidité, d'une intelligence de la situation et de responsabilités qui sont données à l'enfant. Et donc toutes ces images se gravent en lui, mais il faut quand même plus de 25 ans pour que ces images, par le mangaka qu'il est déjà, puissent prendre corps et prendre forme dans une œuvre qui est à la fois autobiographique et historique.
On va y revenir d'ailleurs à la mémoire, à la sédimentation et au temps que ça prend et à la manière dont ça se dépose en lui, Pauline Croquet, puisque Benoît Peters dit à l'instant qu'il est déjà mangaka. Peut-être on peut dire un mot de son parcours.
Oui, absolument. Alors déjà, c'est... En fait, Keiji Nakazawa, il a à peu près 10 ans de carrière quand il dessine Gen aux pieds nus. En fait, il est monté dans le début des années 60 à Tokyo pour essayer de faire carrière. Il a 22 ans. Avant ça, il avait fait un petit travail de dessinateur d'affiches publicitaires dans sa ville d'origine. Et en fait, comme tout mangaka, ou aspirant mangaka à l'époque. Il frappe à des portes, il montre ses planches, il participe à des concours de manga. Et il commence en 63 dans un magazine qui s'appelle Shonen Gao. Et il publie une première série, série de courses automobiles sur fond de thriller industriel. C'est très particulier. Donc on est vraiment sur le registre de du manga pour les jeunes garçons, puisqu'au Japon, en fait, les mangas
sont
genrés. En fait, on des cibles éditoriales donc de genre et d'âge. Donc il y a les jeunes garçons, le shonen, les jeunes filles, le shoujo, et puis ça se décline dans différentes catégories éditoriales. Et donc lui, en fait, il fait carrière dans le shonen, dans les magazines pour les jeunes garçons.
Il est très marqué par Tezuka, hein, comme tout le monde, surtout depuis la nouvelle Île au Trésor. Il faut bien dire que Tezuka, c'est Hergé ou Goscinny, mais à une échelle encore plus grande. C'est-à-dire, c'est vraiment la référence absolue, et c'est l'auteur qui a donné à beaucoup l'envie d'aller vers le manga.
Oui, justement, j'allais vous demander, Pauline Croquet, comment il se voit transmettre le goût du dessin?
Alors, après-guerre, en fait, le Japon est à genoux, on le voit bien, et à plus forte raison à Hiroshima. Et donc, en fait, les jeunes gens et les gens se divertissent à la fois dans des librairies de prêt. On loue des livres, ensuite, ça va être remplacé par les magazines. On a aussi le théâtre de papier qui s'appelle le Kamishibai, qui sont des petits théâtres itinérants qui ont fortement influencé la première génération de mangaka. Et puis, tout simplement, le cinéma. D'ailleurs, Keiji Nakazawa y fait référence, c'est-à-dire qu'on commence à ouvrir des salles de cinéma et les gens vont se divertir de cette façon. Donc tout ça, en fait, et donc effectivement Tezuka, qu'il découvre assez jeune, et puis il raconte que il va aller revendre un peu de ferraille pour aller s'acheter la nouvelle Île au Trésor, pour la posséder, pour la détenir et la lire encore et encore. Et après, tout simplement, quand les magazines font florès assez rapidement dans les années 60 et vont avoir de cesse de se renforcer et d'avoir des tirages exponentiels, en fait, il va forcément lire énormément de mangas et d'autres auteurs.
Donc vous dites, il a 22 ans, il arrive, il commence à publier d'abord quelque chose qui n'a rien à voir avec la Seconde Guerre mondiale et Hiroshima. Qu'est-ce qui se passe pendant les 10 ans qui précèdent ce travail particulier qu'est Gaine aux pieds nus?
Tout simplement, c'est la tentative de vivre de son art. C'est très compliqué. C'est un marché qui commence à se construire. Il y a beaucoup de demandes. Il y a besoin de remplir des pages de magazines, mais en même temps, il y a la foi des candidats. C'est un petit peu on va dire, c'est vraiment la première génération de mangaka. Il y a des mangaka très établis comme Osamu Tezuka et bien d'autres qui publient dans énormément de magazines et même avant ça dans ces fameux livres de prêt, ces fameuses bandes dessinées de prêt. Mais donc il essaye de faire carrière et surtout il ne veut pas parler de son passé, puisque effectivement c'est tabou. Il ne veut pas parler de son passé, de rescapé de la bombe. Il va y avoir un déclenchement tout simple qui va se produire en 1966. C'est un jeune marié, il est à Tokyo, on l'appelle, on lui dit de venir au chevet de sa mère qui décède des suites des radiations, on suppose. Et lors de sa crémation et de ses funérailles, c'est le choc. Au Japon, il y a cette tradition qu'on recueille les ossements du défunt. Et lui, il constate et il l'attribue aux radiations et à la bombe. Il ne resterait que de la poussière d'os. Et donc, c'est le déclencheur. Il est terriblement en colère. Et il décide qu'il se vengera, qu'il vengera sa famille.
Dans ces termes, hein.
Oui, tout à fait. Il parle du mot de la vengeance et il le fera en prenant sa plume, tout simplement, parce que c'est la seule chose qu'il sait faire il faut comprendre que la bande dessinée, comme tout art, c'est une envie. Ça vient d'une pulsion, d'une expression et d'une envie de raconter des choses, même si c'est parfois de la pure fiction. Et le meilleur moyen, quand on est auteur, dessinateur, auteur, c'est de prendre sa meilleure arme, à savoir, en l'occurrence, la plume.
Et parce que d'une certaine manière, 66, la mort de sa mère et l'absence des os, c'est une manière de la tuer deux fois, et c'est cela qui lui est insupportable, parce que sa mère, comme lui, survive in extremis, c'est-à-dire qu'il s'arrache au drame. J'ai pas voulu lire l'extrait de la préface où il dit dans quels termes il s'arrache aux flammes, mais c'est un déchirement absolu, et en plus de tuer son père et son frère, il y a quelque chose qui tue aussi la cellule, puisqu'ils sont absolument séparés par le drame et par la bombe. Peut-être on peut dire, en 72, vous l'avez dit tout à l'heure, Benoît Peters, c'est pas commun de parler de soi, c'est encore moins commun de parler de soi et de son vécu post-guerre. Comment c'est reçu ?
Alors, le premier ici porte ce titre « Je l'ai vécu ».
Ouais. Mais c'est avant « Gaine aux pieds nus ».
C'est avant « Gaine
aux pieds
nus ».
C'est même « J'ai vu ».
Et ça n'a pas du
tout... C'est pas «
Je l'ai vu ».
Je l'ai vu.
Mais il a fait d'autres mangas où il parle de la bombe avant. Parce que quand il revient, quand il est déterminé à raconter ce qui s'est passé, il le fait d'abord d'un point de vue extérieur. Et il va tenter et il va faire publier des... Sous la pluie noire, et puis une série qu'on va appeler la série Kuroi, qui ça veut dire noir. Et donc, il va publier différents mangas, mais qui ne parle pas à proprement parler de son expérience. Il ne se positionne pas comme témoin direct. C'est ensuite, effectivement, quand il rentre dans le magazine Weekly Shonen Jump, et qu'il rencontre le premier rédacteur en chef de ce magazine.
Qui le soutient et qui est extrêmement important.
Qui s'appelle Tadasu Nagano, qui est très important pour l'histoire du manga. Puisque le Weekly Shonen Jump, il faut le rappeler, c'est quand même le magazine, le plus grand magazine. C'est le magazine qui a vu naître Dragon Ball, qui a vu naître Naruto, One Piece pour des exemples récents.
C'est 2 millions d'exemplaires par semaine.
Voilà,
c'est parce que cet homme l'écoute, parce qu'il croit et soutient son art, qu'il va se lancer dans une...
Il est touché, tout
oui,
simplement.
Dans une autre forme. Et donc, vous le dites, Benoît Peters, il y a comme une sorte de prémisse à Gaine aux pieds nus qui est « je l'ai vu », ce qui est quand même intéressant quand on en a dans la tête « tu n'as rien vu à Hiroshima » de Duras. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce « je l'ai vu » qui préfigure Gaine aux pieds nus?
Je n'ai pas lu ce récit court qui n'a pas été traduit à ma connaissance, mais le rédacteur en chef lui dit d'emblée « c'est bien, mais c'est trop court ». Et c'est là qu'il va y avoir l'impulsion absolument extraordinaire de ce récit qui s'étend dans l'espace et dans le temps, puisque ce n'est pas seulement l'histoire de la bombe.
Non.
On réduit parfois Gaine, la première traduction, c'était Gaine d'Hiroshima. Aujourd'hui, c'est Gaine aux pieds nus. Et c'est vraiment la traversée de l'histoire, puisqu'on commence bien avant la bombe et on s'arrête en 53. Il y a donc cette idée d'une ampleur. Le récit va prendre 2800 pages. Hein, on sait que c'est une image associée au manga, parfois un peu facilement, mais quand on pense aux très très grandes sagas que sont Akira, Monster, 20th Century Boy et d'autres, la durée, l'étendue dans le temps, mais aussi l'entrée dans le détail, sont absolument constitutifs de la force du récit.
Il faut dire que, pour donner un exemple, le tome 2 de Gaine aux pieds nus, c'est 6 au 11 août 1945, et c'est je ne sais pas combien de pages, c'est-à-dire qu'il y a un étirement du temps à la seconde, évidemment, il y a des pages complètement folles au moment où la bombe est larguée, où il y a un entremêlement entre le quotidien de ce matin-là, les enfants qui vont à l'école, une maison qui se réveille, et puis un avion qui s'apprête, lui, lui aussi qui est à la seconde près, l'avion qui regarde la météo, il regarde le même ciel, enfin bon.
Mais ce temps est nécessaire. C'est vraiment là, pas du tout un étirement au sens où on tirerait sur le récit, mais vraiment l'idée effectivement de la simultanéité de l'histoire individuelle. Et il y a plusieurs individus qui ont été mis en place dès le tome 1, c'est une des forces de l'histoire, nous faire rentrer dans l'histoire de sa famille avant qu'elle soit déchiquetée, mais aussi avoir d'autres points de vue. Et je crois que cette longueur, elle est inhérente au projet et elle fait vraiment partie de sa force. Parfois, les gens croient que le manga, comme ça, ça se développe pour se développer. C'est peut-être le cas de certaines séries mineures, mais ici, on n'a pas du tout ce
non,
sentiment.
Au contraire, très dense, c'est ça qui est hyper bizarre. C'est qu'à la fois, on a beaucoup de pages pour traiter, pas beaucoup de jours, pas beaucoup d'heures, et pourtant, c'est en effet jamais délié, jamais dilué. Peut-être que ça a à voir quand même, Benoît Peters et Pauline Croquet, à l'idée qu'en quelques secondes, une bombe est capable d'anéantir la nature, les humains, une ville, et cela pour des années. Il y a aussi un décalage entre le si peu de temps de la bombe et le si longue opération de destruction.
Il y a la question aussi des images que va garder Keiji Nakazawa, parce que à la fois, j'imagine, il y a de la sidération après, il y a les images qui vont rester toute la vie, et effectivement, choisir quel cadre, choisir quelle case on va montrer de cette séquence, bien que ça soit détaillé en 4 pages, le bombardement et ce qui se produit. Mais il y a quelque part, enfin, j'ose croire, quand je lis ce manga, qu'il y a de l'ordre des flashs qui lui sont revenus, des images, et qu'il a intercalé dans sa séquence quelques photographies, quelques souvenirs qui l'ont marqué. Et donc forcément, ces images qui restent toute une vie, et qui vont marquer un homme, et qui vont marquer une population, en fait, se doivent d'être exposées assez longuement, finalement.
Et puis, c'est l'instant de son sauvetage, parce qu'évidemment, c'est un moment d'anéantissement. La plupart de sa famille, mais ses voisins, ses proches, les autres enfants vont disparaître. Lui s'est abrité derrière un mur épais, et il est quasi indemne. Bien sûr, il est touché et abîmé, mais par rapport aux autres. Et donc, il est porteur d'une mémoire qui est presque unique, parce qu'il était en âge de se souvenir et d'enregistrer des images, et il est là, des années après, pour en témoigner et les ressusciter au présent.
On y viendra évidemment, parce que le choix d'un narrateur enfant et l'image d'un blé qui germe et qui va regermer, et qui est à l'origine du début, du premier chapitre de Gaine au pied nu, est une image fondamentale. Peut-être un petit mot l'un et l'autre sur la réception, donc on l'a dit au Japon. Quelle vie a cette série Gaine au pied nu? Donc Japon, États-Unis, France, Pauline Croquet.
Au Japon, déjà, c'est une œuvre qui a marqué notamment. Alors d'abord, les mangas paraissent sous forme, enfin, dans des magazines. Ensuite, ont une vie sous forme reliée. Il me semble que Gaine n'a pas connu un énorme succès dans le Weekly Shonen Jump. Enfin, ça a beaucoup marqué, hein, c'est indéniable. Ils ont reçu beaucoup de courriers, mais n'a pas connu le succès peut-être d'autres séries. Il n'empêche que Tadasu Nagano, le rédacteur en chef, a décidé de maintenir la série autant que possible. Et puis, au bout d'un an et demi, elle a été interrompue, mais elle a été continuée par la suite, et notamment sous format relié. Et à partir de là, en fait, elle a servi de matériel pédagogique, elle a servi... Faut dire que dans les années 70, les témoignages commençaient à se multiplier, les témoignages de rescapés. Donc ça a fait partie d'un corpus de témoignages sous formes diverses et variées. Donc tout ça a servi dans les écoles, dans les bibliothèques, et puis auprès des gens. C'est-à-dire que ça a beaucoup marqué. C'est une œuvre qui fait référence, qui a été adaptée au cinéma, en série, au théâtre, il me semble. Donc elle a connu une vie assez large. Ensuite... aux États-Unis, elle est arrivée par l'entremise d'un groupe d'étudiants japonais et étrangers qui, à Tokyo, ont entrepris de le traduire en anglais pour communiquer finalement sur l'horreur de la bombe et notamment sur le nucléaire. Et donc, à la fin des années 70, on exportait Gaine au pied nu. Donc, au début, ça s'est plutôt propagé dans des cercles relativement confidentiels de militants anti-nucléaires. Et puis après, ça a fait bouche à oreille, en fait, par l'entremise du bouche à oreille.
Il y a Art Spiegelman qui signe la préface à cette édition au Tripod et qui dit, d'une certaine manière, avec sa vision politique de l'histoire, parce qu'on y viendra, il y a une manière de tenir, pour une part, responsable l'empire japonais de la destruction et de critiquer la part prise par le Japon dans cet événement tragique. Spiegelman dit ça a facilité la lecture des Américains d'une certaine manière parce que c'était pas ça leur permettait de s'absoudre un petit peu de la très
oui,
grande.
Oui, c'est ce qui rendait le livre en même temps très dur et très difficile à accepter au Japon, puisque dès le début on a affaire à un père qui est anti-militariste, anti-guerre et qui anti-empereur et qui pointe constamment la responsabilité du Japon dans ce qui lui arrive. Mmh. Alors ce n'est pas pour exonérer les Américains de leur responsabilité, mais c'est pour tout de même donner une balance entre ce militarisme japonais et cette folie de la fin de la guerre et des kamikazes, etc., et la bombe qui va arriver. Art Spiegelman lit ce manga, c'est le premier manga qu'il lit. Mmh. Et ça, c'est quelque chose de très important à se dire, à se représenter, c'est qu'aujourd'hui, les mangas sont partout, notamment dans le monde francophone, et on a du mal à penser qu'il n'y a pas si longtemps, on ne les connaissait pas. Donc, Art Spiegelman, quand
il même
préface,
cette surprise. Ouais.
Mais oui, quand il préface le livre, il est un peu heurté par l'écart, le grand écart entre la gravité du thème, la puissance de la narration et un dessin quelque peu grimaçant ou puéril à son goût. Il mettra longtemps, et il le dit puisqu'il a retravaillé sa préface pour l'édition du Tripod, il mettra longtemps à comprendre d'abord que ce dessin s'inscrit dans la tradition du manga et que ce dessin peut-être rend acceptable la chose. Et là, on a une comparaison extraordinaire avec Maus d'Art Spiegelman, sur lequel on reviendra, qui débute au même moment, qui est l'histoire, donc, comme on le sait, de la Shoah, des parents de Art et surtout de son père à Auschwitz, et la métaphore animalière, le dessin par certains côtés simplifié d'Art Spiegelman sont l'équivalent dans la culture américaine de ce
des
que fait Nakazawa.
Dont
mais oui,
parle,
c'est-à-dire que si vous imaginiez Maus dessiné de façon réaliste. Si vous imaginez Gen aux pieds nus dessiné dans un style réaliste, on serait dans l'intolérable absolu. Ces corps qui fondent, qui tombent.
Même temps, on n'est pas totalement épargné non plus, Benoît Peters. Et Art Spiegelman dit aussi que les horreurs d'Hiroshima doivent être horrifiantes et que le dessin de Nakazawa permet cette horreur d'une certaine manière. Je voulais dire un truc sur Spiegelman, j'ai oublié.
Il faut dire aussi, il faut le replacer dans son contexte éditorial de l'époque, Gen Hiroshima, ça ressemble à du manga de l'époque pour jeunes garçons. Enfin, il n'y a pas de volonté fantaisie.
Il n'y a pas de sortie de l'esthétique.
Pas vraiment. Ouais. En fait, c'est vraiment le style de l'époque. Après, je sais que quand il est arrivé en France au début des années 80, quand il a été édité en France, il y a... Parmi la critique, à la fois, il y avait cette méconnaissance du manga qui faisait qu'on disait « Tiens, ce trait un petit peu, effectivement, grimaçant, un peu simpliste, mais la force du propos est incroyable. » Mais au final, pour avoir revu quand même, bien replongé dans les pages du manga, il y a des plans, il y a des cadrages, il y a des choses assez prodigieuses. Il faut aussi penser que très rapidement, le Weekly Shonen Jump, c'est un magazine hebdomadaire. Enfin, au début, il est mensuel, mais il devient très vite hebdomadaire. Donc, on a des mangaka qui couchent 20 planches par semaine de manga, souvent ou quasiment seul. Keiji Nakazawa travaillait quasiment seul. Il a eu parfois quelques assistants, comme ça peut être le cas. Mais sinon, il a eu un coup de main de son épouse pour faire, on va dire, les trames, pour nettoyer les planches. Mais sinon, c'est du travail solo. Et rien que ça, en fait, aussi techniquement, et c'est vrai que je trouve qu'on ne le redit pas assez, c'est que techniquement, ça tenait quand même très bien la route, même si on n'était pas du tout habitué à cette grammaire visuelle. Mais pour moi, ça ne diffère pas, ça ne diffère pas tant finalement du reste du manga de l'époque.
Un tout petit mot sur la réception française.
Alors, c'est une réception heurtée, puisqu'il y a une première édition en 1983 par les Humanoïdes Associés, dans une collection qui est au format roman graphique, format qui s'est imposé aujourd'hui, à côté d'une bande dessinée roman photo de Caro et Genet, à côté d'un album américain de Steranko. Et on ne connaît pas le manga en France, et donc ce livre déconcerte, passe inaperçu, et seul le premier tome paraît. Un peu plus tard, Albin Michel change le titre, l'appelle « Mourir pour le Japon », et tente une édition qui reprend le tome 1 et un petit morceau du tome 2, comme si c'était clos. Et il faudra attendre des années et des années pour avoir une édition complète, et cette édition, hélas, malgré ses qualités, n'aura qu'une vie assez courte. Donc la force maintenant des éditions du Tripode, c'est non seulement de revoir la traduction, la qualité du dessin, d'annoter quelques erreurs historiques, etc., voilà, mais aussi de s'engager à aller jusqu'au bout et à permettre à cette histoire de vivre et de jouer son rôle pédagogique. Il y a beaucoup de bandes dessinées pseudo-pédagogiques aujourd'hui. Il y a beaucoup de médiocrité dans la bande dessinée du savoir. Là, on a une œuvre de première main, en première personne, qui a vraiment la nécessité d'être lue et comprise. Et c'est aussi une manière de répondre à l'engagement pacifiste qui a été celui de Keiji Nakazawa toute sa vie.
J'allais y venir. On entendra tout à l'heure sa préface traduite et la puissance de son propos, son ambition et l'idée qu'il veut porter...
Et c'est plus actuel que jamais, parce que la menace nucléaire, elle nous revient quand même.
Il faut aussi dire qu'il a toujours donné les coups des franches aux traducteurs et aux gens qui ont eu envie d'adapter son travail. Le groupe Project Gen, là, c'est des étudiants japonais étrangers, mais aussi des gens qui ont voulu le traduire dans d'autres langues. Il a toujours donné feu vert et fait totalement confiance, et ça faisait vraiment partie de sa volonté de propager son propos.
On va continuer de parler du manga Gen aux pieds nus juste après ce titre de Orchestral Manoeuvre in the Dark, un groupe anglais. Leur titre Enola Gay sort en 1980. La chanson s'appelle Enola Gay. Comme l'avion Boeing B-29 Super Fortress qui, le 6 août 1945, a largué sur la ville de Hiroshima la première bombe atomique déployée pour un bombardement stratégique, lequel avion avait été nommé ainsi en hommage, c'est glaçant, à la mère du pilote américain qui largue la bombe ce matin-là. Rythmé donc, mais glaçant.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
La lecture de Gaine aux pieds nus de Keiji Nakazawa s'est gravée dans mon esprit avec toute l'intensité d'un rêve fiévreux. C'est le grand auteur de bande dessinée Art Spiegelman qui parle ainsi du manga culte dans la préface qu'il signe à sa réédition au Tripode. « Je n'oublierai jamais, écrit-il encore, ces gens traînant les lambeaux de leur propre peau dans les ruines d'Hiroshima. Ce cheval en flamme, pris de panique, qui galope à travers la ville, ses asticots se tortillant dans les plaies du visage ravagé d'une jeune fille. » En 10 tomes suivant la vie d'un garçon de 1945, un peu avant le bombardement, à 1953, Keiji Nakazawa, lui-même survivant du désastre, utilise la grammaire particulière du manga pour lier sa matière toute autobiographique à la grande histoire dans un pays où il faut, on l'a dit, à l'époque, beaucoup de courage pour le faire. La violence y circule, de l'échelle domestique et familiale à l'échelle étatique et mondiale. On continue d'en parler avec vous deux, Benoît Peters et Pauline Croquet. Merci beaucoup d'être avec nous. On continue de le faire avec la préface, cette fois signée par l'auteur lui-même. Il nous parle de son personnage principal.
Gaine aux pieds nus. J'ai écrit le nom du héros avec le caractère signifiant l'origine et avec lequel on compose les mots Genzo, symbole ou élément chimique, et Genki, vitalité, entrain, énergie, courage. Je le fis en souhaitant qu'il incarne l'une de ces choses pour l'humanité. Je décidai qu'il serait pieds nus pour fouler le sol radioactif et élever sa voix contre les guerres et les armes atomiques. Gen est mon alter ego. La composition de sa famille est la même que celle de la mienne, et les épisodes présentés dans ce premier tome reprennent les souvenirs de ce que j'ai vu et entendu à Hiroshima.
Un extrait de cette préface que signe Keiji Nakazawa en parlant de son personnage principal. Alors, on a commencé de l'évoquer tout à l'heure, mais pourquoi est-ce que c'est important que ce soit un enfant, ce Gen aux pieds nus ? Alors, bien sûr, il y a l'aspect biographique qui colle à sa propre biographie, mais c'est pas que ça. On entend bien que c'est pas que ça à Benoît Peters.
Il avait, Keiji Nakazawa, 6 ans et demi. Le demi-compte, je pense. Il avait vécu avec une intensité particulière sa famille déchirée, son frère qui s'engage contre la vie du reste de la famille. On a l'impression qu'il est déjà d'une maturité impressionnante, d'une compréhension extraordinaire. Oui, son frère qui s'engage dans la vie militaire et pour sacrifier sa vie, alors que le père est lui un pacifiste convaincu, la famille est déchirée. On a le sentiment que cet enfant, dès le départ, est porteur et d'une lucidité et d'une énergie, ce qui est évoqué par Keiji Nakazawa. C'est lui et ce n'est pas lui, puisqu'évidemment, l'homme qui raconte cette histoire, il est nourri non seulement de ses propres souvenirs, de ceux de tous ses proches, des autres survivants, mais aussi d'une documentation historique absolument considérable. Il y a dans l'édition actuelle des petites rectifications, ça et là, mais il faut penser qu'on est en 73 au moment où il commence à écrire, c'est-à-dire que l'état du savoir historique n'est pas le même, et que cet homme n'est pas d'abord un chercheur, un historien, il est tout de même d'une compétence énorme. Et donc il va y avoir le croisement entre la mémoire vive de cet enfant porteur d'une vitalité incroyable, il passe à travers toute l'horreur, et en même temps, toute la responsabilité de l'adulte qui comprend, après des années comme un mangaka parmi d'autres, que sa mission, son projet, c'est de raconter cette histoire. Et là, on retrouve Art Spiegelman avec Maus. C'était l'idée qu'on est porteur de quelque chose de plus grand que soi. Et il est quand même extraordinaire de penser que deux des plus grandes bandes dessinées autobiographiques du siècle sont nées autour de ces deux désastres majeurs, de ces deux blocs d'opacité,
que sont la
de ces deux trous noirs, la Shoah et Hiroshima.
Et à la
deux choses
date.
Qu'on doit rapprocher.
Et à la même date, ils se mettent au travail en 1972, c'est l'un et l'autre.
45, c'est la libération des camps, c'est l'ouverture des camps, c'est l'horreur impensable, c'est la force du mal. Et l'autre, c'est l'idée d'une science en laquelle on a fait confiance si longtemps, qui a eu des développements si extraordinaires dans la première moitié du XXe siècle et qui aboutit à cela. Et ces deux horreurs, on peut les penser ensemble grâce à ces deux œuvres majeures, à ces deux chefs-d'œuvre si différents et si nécessaire.
Et en plus, qui discutent ensemble par la voix de cette édition et de cette préface. Vous faites un signe vers votre ventre, Benoît Peters, lorsque vous dites qu'il réalise à 30 ans être porteur d'un projet qui le dépasse, Kawazawa. Il se trouve que sa mère est enceinte pendant le bombardement en août 1945 et que le premier plan du premier tome, c'est un blé en train de germer. Il y a vraiment quelque chose, peut-être, dont on peut parler maintenant, Pauline Croquet, c'est-à-dire, bien sûr, il y a la force du récit, il y a la documentation historique, il y a l'écriture, mais il y a aussi le découpage, le dessin, les choix qui sont faits. Qu'est-ce que ça nous raconte, ce premier plan sur les blés ?
Ce plan sur les blés, c'est tout simplement expliquer que même, enfin c'est ce que dit le manga, même piétiné, le blé en fait peut pousser, peut continuer et donner une graine et en fait germer. Donc c'est l'idée de l'espoir et du renouveau, voilà, quelle que soit la tempête, l'hiver ou le piétinement humain. Sur le choix en fait aussi de partir de l'enfance, il faut savoir aussi que Gaine aux pieds nus, ça se déroule sur plusieurs années, donc en fait le héros grandit aussi. Ça c'est quelque chose qui n'est pas rare dans le manga. C'est d'ailleurs une des forces du manga, c'est que on suit un héros assez jeune et qui va vers l'âge adulte. C'est le passage aussi de l'enfance à l'âge adulte. Et je crois aussi que c'est très important de dire que à l'époque, et ça l'est toujours, le manga est un divertissement. On commençait à avoir de la bande dessinée pour adultes au Japon, mais c'était avant tout un divertissement tourné vers les enfants. Et il y avait aussi une forme de, voilà, des valeurs, des choses à transmettre aux enfants. Et je crois que cette envie d'avoir un personnage à la fois résilient, c'est-à-dire c'est l'horreur à hauteur d'enfant, mais aussi cette résilience et cette capacité à ne jamais se décourager. J'ai relu les 10 tomes d'affilée pour
c'est pour la folie, il n'y a pas de lait, c'est ça. Sa mère accouche dans des conditions évidemment effroyables, après, il faut trouver de la nourriture, c'est impossible de se nourrir, enfin c'est vraiment la survie
la haine et la violence entre les survivants.
C'est ça, la haine, l'ostracisation, et ça bien avant la guerre. On le voit notamment avec la façon dont les Coréens sont traités.
On peut dire un petit mot d'ailleurs de toute la période 45 avant que la bombe soit larguée, qui est quand même une partie importante du tome 1 de Gaine aux pieds nus. La position, on l'a dit, de son père qui est pacifiste antimilitaire, qui l'ostracise du reste.
C'est un artiste aussi, son père, donc il y a aussi le côté, alors on va dire un peu, il cumule. Et effectivement, la famille est extrêmement pauvre. Ostracisés, ils sont traités de la même façon que le voisin coréen, donc c'est quelque chose de symboliquement très fort dans le manga, et on le voit d'ailleurs, une des rares personnes à leur tendre la main, c'est ce voisin, Monsieur Pak, il me semble.
Eux, par ailleurs, exclus, minorés, violentés, qu'ils sont coréens ou chinois, d'ailleurs.
Voilà, donc il y a déjà cette forme-là de violence sociale. On les traite de très mauvais patriotes. Il y a aussi des déchirements intérieurs au sein de la famille, puisqu'on a un fils qui décide de s'engager contre la volonté du père. Il y a des parents qui battent leurs enfants. On voit aussi qu'il y a quand même des violences physiques. Et d'ailleurs,
je pense que ça, c'est intéressant de dire, puisque vous disiez tout à l'heure, Benoît Peters, il introduit de la nuance à l'échelle de l'histoire politique et de la bombe. Mais il ne fait pas non plus de cette famille pré-bombardement une famille idyllique. C'est un père violent, c'est-à-dire que il n'y a pas quelque chose qui serait le paradis perdu et puis boum la bombe. Non, c'est déjà, et pour le Japon et pour la cellule familiale, beaucoup plus compliqué que ça.
On a même des scènes où les enfants sont eux-mêmes réduits à l'état de violence, puisque moi, il y a une scène qui m'a beaucoup marquée où ils affrontent un voisin un peu délateur et Gaine ou son petit frère, en fait, mord jusqu'au sang, voire même arrache les doigts du voisin en question. Donc ça, d'entrée de jeu, on se rend compte que c'est...
La société entière est soumise à cette brutalité.
Il n'a pas fallu ce bombardement pour que la guerre, les privations, l'ostracisation, l'injustice, y compris envers les enfants, démarre. Et ensuite, ça ne va aller que... Bon, il y a effectivement ce moment de la bombe, mais ça va crescendo.
La force, c'est justement cette description qui n'édulcore rien, qui n'essaye pas de dire la famille est du côté du bien, avait une vie idéale. Et il y a la violence, évidemment, extraordinaire de la bombe, mais il y avait la violence extraordinaire de la société japonaise, sa violence raciste. Tout ça fait de l'œuvre une œuvre extrêmement audacieuse et d'ailleurs difficilement recevable au Japon hier et encore aujourd'hui où il reste de très très nombreux tabous. Ben, la question du traitement des Coréens par exemple reste aujourd'hui une question vive, et je parlais tout à l'heure de Mao, de même que Mao est aujourd'hui mis en cause et retiré de certaines bibliothèques, la même chose arrive aux éditions de Gaine. On dit ah non, c'est trop impressionnant pour les enfants, ça va leur donner une mauvaise image, etc. Comme si ce qui avait été reçu il y a 50 ans était finalement encore plus difficile à recevoir aujourd'hui. Ça dit que l'œuvre a une force interne parce qu'elle n'a rien voulu dissimuler, parce qu'elle n'est pas manichéenne, malgré sa grande intensité et sa violence, et malgré le fait qu'elle s'adressait d'abord à un public enfantin. Oui, et ça, c'est sa beauté, je veux dire.
Mais d'ailleurs, Art Spiegelman dit, ah, quand même, au début, je me suis dit, ça, pour des enfants, mon Dieu, comment est-ce qu'ils vont pouvoir gérer l'absolue horreur, on va y venir. Mais on a parlé du personnage du père, du personnage du frère qui s'engage pour une vie militaire alors que le père est anti-militaire et pacifiste. On a dit peu de choses du personnage de la mère dans la bande dessinée, Benoît Peter. Tout à l'heure, Pauline Croquet disait à quel point la mort dans la vie réelle de l'auteur, la mort de la mère et sa réduction aux cendres avait été la colère tellement forte qu'il l'avait poussée à écrire. Il y a quelque chose, vous parlez beaucoup de résilience, mais il y a même une sorte de surpuissance de ce personnage de la mère quand même dans Gaine.
Aidé par l'enfant, parce que Gaine, dont je rappelle qu'il a un peu plus de 6 ans, aide sa mère a accouché de la petite fille dans des conditions d'horreur qu'on peut imaginer, donc l'accouchement anticipé, précipité par la bombe. Enfin, il y a là quelque chose d'une force. C'est le fils qui devient le père à côté de la mère. On imagine l'addition des traumas.
Ça, c'est que dans le manga. Normalement, il me semble qu'il explique d'ailleurs dans la préface.
Ouais.
C'est une partie de choses qu'on lui a racontées, qu'il recompose.
Et à partir d'autres.
C'est pour ça, d'ailleurs, je pense qu'il choisit un alter ego, Gaine, qui est très proche de lui. Ça lui permet de raconter des choses rapportées, des choses entendues. Normalement, il n'a pas vécu ça. Quand il arrive, il rejoint sa mère, en fait, Keiji Nakazawa, elle a déjà accouché.
C'est ça.
Mais
dans la vie réelle.
Ça se fait tout juste.
Donc, la scène est d'une intensité extraordinaire. On n'est pas effectivement dans le pacte autobiographique, cher à Philippe Lejeune. On est dans l'idée d'une recomposition, d'une autofiction, par certains.
Oui, mais ça fabrique autre chose, parce qu'on entend bien aussi à quel point il fait entrer d'autres vies que la sienne dans son récit, et d'un seul coup il raconte pas que sa vie à lui, Nakazawa, mais la vie des survivants qui, eux, n'ont pas pris la parole encore, en fait.
Et la mort de cette petite sœur, quelques mois après, est très forte aussi dans le manga, elle est très puissante, et ces deux scènes mises en regard se répondent graphiquement, mais aussi sur la charge symbolique. Effectivement, on est sur
on peut dire comment, peut-être c'est intéressant de voir la manière dont...
Elle meurt de malnutrition.
Non, mais je veux dire la réponse graphique.
Ah, ben en fait, on a au départ, donc il reçoit sa petite sœur, donc qui vient de naître. Il la porte quasiment aux cieux. Et il porte énormément d'espoir. Il dit voilà, on va s'en sortir, on va y arriver.
On va la nommer.
Voilà. Et quelques mois plus tard, elle décède. Et là, il la berce. Il la supplie de survivre. Elle est elle est endormie, elle est fébrile. Et il pleure sur elle. Et là, il y a un geste plus intime de recroquevillement, comme ça, où on est, où il protège sa sœur et elle meurt. Et donc, pour moi, ce côté, je montre au monde, il y a un symbole, je montre, et puis je me recroqueville sur quelque chose aussi, on n'y est pas arrivé. Ça, c'est très intéressant. Et c'est cette Gaine au pied nu, c'est vraiment des montagnes russes d'émotions, y compris de Gaine, on va le voir très abattu, et puis après repartir, il va perdre énormément de copains, il va perdre des amours de jeunesse, on va dire toutes la bombe va le suivre, et puis aussi la pauvreté, et tout ça en fait il doit recommencer à zéro quasiment tout le temps, en fait.
Ce qui revient à ce que vous disiez tout à l'heure, Benoît Peters, au traitement du temps et du temps long dans cette fresque là et c'est bien dire aussi, et c'est aussi la radiation sur le temps long de la bombe atomique qui n'est pas le 6 août 45 et puis c'est fini. C'est-à-dire que d'une part, il y a des dizaines de milliers de personnes qui meurent sur le coup, puis ensuite qui meurent dans les quelques semaines ou mois qui viennent. Et puis ensuite, il y a les sols, les plantes, les animaux. Il y a quelque chose de la destruction très longue aussi. Et à chaque fois, de la résilience possible qui arrive. Il se trouve que cet été, sur France Culture, a été diffusée une grande traversée, un grand documentaire sur la bombe atomique qui parlait à la première personne. Et dans cette grande traversée, on entend le journaliste japonais Colin Kobayashi témoigner de sa prise de conscience de l'horreur.
On peut voir des cadavres tués ou accidentés, oui, mais le corps intégralement calciné par la chaleur radioactive, c'est en dehors de l'imagination, quoi. Ça représente un peu la puissance de la bombe atomique, quoi. C'était au moment où j'étais deuxième, troisième année de l'école primaire, juste après 54. J'ai eu, par hasard, une occasion de voir ce film, un documentaire sur Hiroshima et Nagasaki qui me présentait vraiment un anéantissement total de l'humanité, quoi. J'avais 5-6 ans. Ce que je me souviens, ce sont des images des soins médicaux que certains membres de Hibakusha avaient reçus et ça m'a fait très très mal. Évidemment, quand on a eu des cauchemars, on voulait oublier tout, quoi. C'est la réaction un peu humaine.
La voix du journaliste japonais Colin Kobayashi dans la grande traversée consacrée à la bombe, signée Stéphane Bonnefoy et Anne Pérez, à réécouter sur franceculture.fr ou via l'application. On entend bien dans la voix de cet homme le en dehors de l'imagination et aussi l'oubli qui veut vouloir recouvrir l'horreur pour rendre les images inaccessibles parce qu'elles sont insupportables. Comment est-ce qu'il se débrouille, Keiji Nakazawa, avec cet insupportable, l'oubli? Et vous parliez tout à l'heure, Pauline Croquet, des flashs des images. Voilà, comment est-ce qu'il y a une sorte de mélange entre la précision de la souvenance et quand même quelque chose du temps qui a passé, quoi?
Moi, je pense qu'il fait déjà le pacte de raconter les choses telles qu'elles sont, en tout cas à minima dans sa mémoire et avec de la documentation. Il y a quand même, c'est très cru, même si effectivement ce n'est pas, on va dire, anatomiquement toujours correct. Mais voilà,
on a quand même des idées de peau
voilà,
qui fondent.
Voilà, on a la peau qui fond, on a l'oblitération d'une ville, on a aussi les gens dans les décombres, les incendies. Sur les tomes suivants, on a aussi les gens qui souffrent de maladies, qui souffrent aussi des conséquences de la pauvreté et puis de la violence sociale. Des gens voilà qui essayent de survivre. Donc tout ça c'est véritablement montré. Et d'ailleurs, quand il me semble, dans les documents que j'ai pu consulter, quand on lui disait ouais c'est quand même assez violent, il disait non mais attendez, là on a que les images en fait. On a que les images, il y a pas le son, il y a pas
l'odeur.
Tout ce qui est l'odeur et tout ça. Et effectivement ça protège. Mais Art Spiegelman parle de ce cheval cabré en feu.
Ouais, j'allais y venir, ouais. Parce que c'est quasi une pleine page, non?
C'est une double page. Elle arrive très tôt dans le manga. Donc, c'est une page qu'on a vue et revue, en fait, notamment en France. Parce que ça fait partie du premier tome. Et donc, celle-là, on s'en souvient. Et puis après, sur le deuxième tome, on a, les jours qui suivent. Et notamment, les questions autour de la pluie noire. Des gens avec, une image qui m'a beaucoup marquée, c'est des gens avec des débris de verre, partout.
Incrustés dans la peau.
Ouais, donc tout ça.
Et puis, ils reculent pas devant ça, quand
les
même.
Charniers, les charrettes pleines de corps, ça, on va le voir très, très souvent dans le manga aussi.
Benoît Peters.
Ce sont des images, finalement, qu'on a moins vues que d'autres. Je crois qu'on a davantage vu, en Europe en tout cas, les images des camps de la mort. Et quant à la bombe, on a souvent raconté cette histoire du point de vue de la grandiose épopée scientifique et technique qu'a été le projet Manhattan. Encore récemment, avec le film Oppenheimer ou avec une remarquable bande dessinée documentaire qui s'appelle La Bombe, qui nous raconte comment cela a été construit parce qu'on voulait éviter que l'Allemagne se dote de la bombe avant. Donc il y avait quand même, malgré l'horreur qu'on connaissait, l'idée d'une épopée grandiose. Or là, ce qu'on perçoit, c'est la réalité
de
cet impact qu'on a voulu gommer, puisqu'on sait très bien que Hiroshima n'a pas cessé, n'a pas fait cesser l'usage de l'arme nucléaire et les essais monstrueux dans les années qui ont suivi. Et là, la violence de cette histoire nous le rappelle. Hiroshima et Nagasaki, sa réplique. Inutile et monstrueuse. J'ai visité les deux villes, le mémorial dans chacune des deux villes, deux impacts si différents. C'est une réalité de l'horreur atomique qu'on ne veut pas se représenter puisque nous n'avons pas renoncé à l'arme nucléaire. Et je crois que c'est ça quand même le combat de Nakazawa à travers toute sa vie. C'est que si l'on décrit ça, si l'on dit plus jamais Auschwitz. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord, même s'il y a eu d'autres génocides, hélas, depuis. Mais le plus jamais d'Hiroshima, on n'arrive pas à l'intégrer. Mmh. Rappelons-nous, à peu près au moment du 50e anniversaire d'Hiroshima, de la reprise des essais nucléaires par la France, qui avait horrifié le Japon et qui aurait dû horrifier le monde entier. Et donc, cette représentation par le dessin se substitue à des images largement manquante, largement déficitaire.
Et qu'on ne veut toujours pas voir, d'une certaine manière,
Benoît Peut-être Peters. Aussi parce qu'elles sont irregardables.
Oui, la bêtise, les préjugés raciaux, les religions, les manœuvres des marchands de mort pariant sur la prolifération des armes font que les humains sont continuellement en guerre sur cette terre et que les risques de conflits et d'utilisation des armes atomiques sont constants. Si la lecture de ce livre vous amène à respecter la paix et à avoir le courage de survivre à l'image du blé qui bourgeonne en hiver et foulé encore et encore mais s'enracine toujours plus fermement et pousse bien droit pour donner des épis généreux, alors j'aurais atteint mon but. On est en avril 1996, c'est-à-dire que il est animé de la conscience de ce que vous venez de dire, Benoît Peters. Là, on est 50 ans après la bombe.
Oui, puis cette réception, elle va les gens qui vont tenter de traduire et d'exporter Gen d'Hiroshima, notamment aux États-Unis, ils vont se heurter très vite aussi à cette idée que là, c'est une bombe propre, que aussi les Japonais l'auraient quelque part recherché. C'est un châtiment presque d'ordre divin. C'est des choses que vont entendre les gens qui ont traduit, les gens du projet Gen Hiroshima, de ce projet de traduction. Donc oui, ça reste encore assez présent des années plus tard dans l'esprit des gens, en fait.
On va écouter la voix de Heymen. Il a lu Gen aux pieds nus, il attendait cette traduction. Il vous pose une question.
Bonjour le Book Club, je viens enfin de lire le tome 1 de Gen aux pieds nus après avoir attendu des années une nouvelle édition et je dois dire que ça a été une sacrée claque. Ce n'est pas le seul titre qui m'a marqué, je pense notamment à Pelleliu ou encore Fleur de Pierre, mais j'aimerais vous poser une question Pauline, est-ce que pour vous il y a un autre titre que Gen aux pieds nus qui est aussi marquant et important que celui-ci dans l'histoire du manga, voire de la bande dessinée de manière générale. Merci pour votre réponse.
Merci beaucoup, Heymen, pour cette question. Vaste question, mais c'est pas grave, ça peut ouvrir un chantier de réflexion.
Oui, c'est une vaste question. Ça impliquerait d'avoir lu toute la production de manga et il ne nous en parvient qu'une une portion en France et aussi d'avoir consulté toute la bande dessinée mondiale. Donc,
Ce
n'est absolument pas mon cas.
Encore moins bien.
On a beaucoup parlé de Moss, donc je pense évidemment que c'est une œuvre qui fait un excellent vis-à-vis à Gen. Sur la partie japonaise, en fait, dans le manga, l'image en fait de la bombe, de l'explosion, elle a irrigué la grammaire visuelle du manga.
Donc ça, c'est peut-être intéressant de s'arrêter là-dessus. C'est-à-dire qu'on a commencé par dire, finalement, c'est assez novateur en 72 de le faire comme il le fait. Mais par contre, le motif, le dessin, l'explosion,
le champignon,
ça, c'est hyper présent.
On pense à Akira de Katsuhiro Otomo très très vite. On va penser aussi à tous ces mangakas qui sont aussi des enfants de la guerre. On pense à Leiji Matsumoto, on pense aussi à Shotaro Ishinomori, qui sont des mangakas de première ou deuxième génération dans l'histoire du manga.
L'histoire des trois Adolphes de Tezuka.
Voilà, Tezuka lui-même. Donc ça, ce sujet, en fait, là, cette guerre, les questions autour du pacifisme, autour, même visuellement, en fait, ça a irrigué le manga, y compris la fiction. Le champignon nucléaire, enfin voilà, je pense que si vous lisez du manga, vous en aurez vu au moins un dans une planche ou dans un album. On parlait avec Benoît un peu plus tôt, peut-être du Tombeau des Lucioles, de Isao Takahata, pour le studio Ghibli, qui est effectivement une œuvre avec une charge symbolique, une dimension cruelle, mais dramatique, mais aussi une forme de réalisme, y compris de façon dessinée, mais un réalisme dessiné et une volonté de faire état de réalisme qui me paraît être un peu quelque part une forme d'équivalent mais en cinéma d'animation. Mais là, c'est vraiment à brûle pour point.
Mais je pense déjà pas mal. Qu'est-ce qui fait alors la spécificité, puisqu'on arrive à la fin de cette émission, c'est-à-dire Heymen lui-même, notre auditeur, disait un équivalent à l'importance, c'est bien dire l'importance de ce manga-là dont on va découvrir grâce aux éditions Tripode les 10 tomes. Benoît Peters.
Je crois que l'œuvre a peu vieilli et qu'aujourd'hui, que le manga est partout, une nouvelle génération, peut-être même deux nouvelles générations, peuvent découvrir. Mmh. Puisque quand cette œuvre arrive pour la première fois ou la deuxième fois en France, on n'est pas préparé.
On n'a pas l'œil presque.
Il faut se rendre compte qu'il a fallu que Jacques Glénat, allant au Japon pour essayer de vendre des bandes dessinées européennes, tombe sur Akira, alors en fin de parution, rapporte Akira pour que cela déclenche par-delà le goût pour l'animé qui venait du Club Dorothée, mais c'était un autre genre, on n'imagine pas tellement Gen dans ce contexte-là, pour que le manga s'impose assez tard. Il a pris ensuite une place telle que... aujourd'hui, ça nous semble l'évidence de baigner dans le manga en même temps que dans la culture bande dessinée ou comics. Mais donc, pour celles et ceux qui ont grandi avec ces codes, je crois que Gen sera un choc très fort et qu'ils ont la grammaire pour le lire. Évidemment, l'acceptation du sens de lecture japonais, une traduction soignée, une qualité de reproduction des planches remarquable.
C'est hyper beau.
C'est étonnant, c'est une jolie histoire au fond, parce que c'est à la grande exposition
du Centre Pompidou.
Du Centre Pompidou. Que Charlotte Brelade, responsable actuelle du Tripode, est tombée en arrêt devant quelques planches.
Grande exposition consacrée à la BD.
La grande exposition dans le cadre de la bande dessinée à tous les étages. Quelques planches dans la section histoire de Gen, et soit stupéfaite et sans être éditrice de manga, et envie de faire revivre cette œuvre. Et ça, je crois que c'est important, parce qu'il y a celles et ceux qui sont familiers du manga et qui vont, je pense, prendre une grande claque, mais il y a tous ceux qui en lisent peu, ou s'en méfient, ou en ont des réductrices,
qui pourraient y entrer.
Et qui pourraient y entrer aujourd'hui. Et je crois que là, nous ne pouvons plus nous dire, il y a d'un côté les lecteurs de manga, d'autre côté les gens qui lisent la bande dessinée franco-belge, le roman graphique. Non, là, on a une œuvre qui peut toucher tout le monde, qu'on soit lecteur de bande dessinée ou non, d'ailleurs. Je crois qu'il y a, quelque chose de nécessaire, et peut-être qu'il y a des équivalents, mais en un sens, c'est unique, parce qu'avoir quelqu'un qui l'a vécu dans sa chair et qui a eu la capacité d'en faire une œuvre aussi puissante, ça, véritablement, je n'en trouve pas d'équivalent.
Et ce qui est intéressant, pour revenir aux mots qu'il choisit pour nommer son personnage principal, ce Gen à qui il donne l'idée des origines, c'est intéressant aussi de penser, comme vous dites, Benoît Peters, à tous ces jeunes gens qui lisent énormément de mangas et qui peut-être peuvent aller à l'origine ou aux origines.
Pas que les jeunes gens, il y a beaucoup de gens qui font remonter souvent le manga à Dragon Ball, ça serait un peu l'année zéro en France, parce qu'on a reçu aussi le manga dans le désordre, quelque part. Et c'est une œuvre importante.
Eux aussi aller vers 72, oui, voilà.
Tout à fait, mais en fait, les gens qui ont l'habitude de lire les mangas du Weekly Shonen Jump, des Naruto, des One Piece, ils vont retrouver cette force de vitalité chez Gen, ils vont retrouver aussi des prémices dans le découpage, dans la façon de faire. En fait, ils vont être familiers, finalement, de Gen assez vite, même en dépit de la dureté du récit. Enfin, c'est quand même pas facile à lire. On n'en sort pas indemne. Moi, j'y repense encore assez souvent à ces planches de manga. Mais c'est intéressant de voir comment un pur divertissement, en tout cas conçu comme tel au Japon,
prend ça en charge à ce moment-là,
tout à
surtout.
Tout à fait.
Le Book Club continue. Et c'est l'heure de l'agenda dans le Book Club. Vous parliez, Benoît Peters, de planches. Et on pourra voir à partir du 19 novembre au musée Guimet, dans une exposition qui met à l'honneur le manga, Manga tout un art, 8 planches originales de Gen d'Hiroshima ou Gen aux pieds nus, la célèbre bande dessinée de Keiji Nakazawa à qui on a consacré notre Book Club aujourd'hui. C'est vraiment un voyage à travers l'histoire et les techniques du manga. C'est à voir au musée Guimet à Paris. Et puis quand je suis entrée tout à l'heure dans ce studio, vous me disiez que le Festival d'Angoulême n'était pas en très bonne forme. C'est le cas aussi des éditions de l'association Grande Maison d'édition de bande dessinée indépendante, créée en 1990 par 7 jeunes auteurs avides de s'affranchir des normes qui étaient à l'époque imposées à cet art. Comme plein de maisons d'édition, ils sont dans une situation financière très compliquée, étranglée par des problèmes de trésorerie, de coûts de fabrication. Il y a 800 livres publiés depuis les 35 ans d'existence de la maison d'édition. On relaie ici au Book Club un appel, ils font un appel, sur Hello Asso, une campagne pour relancer la machine, d'une certaine manière. On leur souhaite le meilleur.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et à cette heure-ci, on joue à un grand jeu, c'est le grand jeu des pages musicales. On s'amuse à chercher de la musique dans les livres, on n'en a pas trouvé. Dans Gaine aux pieds nus, peut-être que la musique n'était pas tout à fait la bienvenue pour raconter cette histoire. Alors on va piocher dans notre réserve, c'est Léa qui nous propose un extrait d'un livre qui s'appelle Orbital, paru en 2024 pour l'édition française aux éditions Flammarion. Et c'est Samantha Harvey qui en est l'autrice. Le matin, ça sue et souffle et peine, poids, haltères et tapis de course, 2 heures par jour pendant lesquelles leurs corps, n'étant pas suspendus, sont contraints d'obéir à la gravité. Dans la section russe du vaisseau, Anton pédale sur place pour chasser le sommeil accumulé, Roman trotte sur le tapis de course. À 3 modules de là, dans la section non russe, Nell est sur le développé couché et regarde rouler ses muscles sous un vernis de sueur, tandis que piston et volant simulent la gravité. Ses membres fermes et minces n'ont pas de tenue. Elle a beau pousser, presser et pédaler pendant ses 2 heures dans la salle de gym, il n'en reste pas moins que 22 heures par jour, le corps ne rencontre aucune résistance. À côté d'elle, Pietro est harnaché au tapis roulant américain. Il écoute Duke Ellington les yeux fermés. Dans sa tête, défilent les chants de menthe sauvage de l'Émilie-Romagne. Chi, dans le module adjacent, sur le vélo d'exercice, dents serrées, résistance à air au maximum, compte la cadence de son pédalage. Ici, dans la microgravité, vous êtes un oiseau de mer qui se laisse porter dans un ciel dégagé, juste porté. Benoît Peters et Pauline Croquet d'être venus parler de Gaine aux pieds nus, reparu au Tripode. C'est parti pour les 10 tomes de Keiji et Nakazawa. On n'a pas parlé de votre travail à vous, les uns les autres, et vous êtes venus généreusement, donc c'est très agréable. On rappelle que vous êtes le scénariste des Cités Obscures, Benoît Peters. Voilà, écoute.
Avec le dessinateur François Skaten.
Avec François Skaten, évidemment, et qu'on peut donc aller en librairie pour acheter ça, et puis pourquoi pas aller sur le site du Monde où vous retrouvez toutes les versions papier pour relire vos articles, Pauline Croquet, que vous aviez consacrés à ce manga. Un grand merci au son aujourd'hui, c'était Jean-Guilain Meige, à la réalisation Daphné Leblond. Un grand merci à toute l'équipe, en particulier à Garance Roubieux aujourd'hui.